Aujourd'hui, c'est Rudy Kanyawan, alias Mr. Conti ou Docteur 47. Le juge bute sur le nom d'un roi biblique, Jéroboam. Il détache chaque syllabe, puis se tourne vers le procureur. Il s'agit d'une très grosse bouteille, je crois qu'elle contient 4,5 litres. Assis sur le banc des accusés, Rudy Kanyawan ne scie pas. Il pourrait leur expliquer qu'ils confondent avec le Réoboam et que le Jéroboam contient 3 litres. Mais sans doute ne souhaite-t-il pas aggraver son cas. C'est sa dernière audience préliminaire devant le tribunal fédéral de New York, et après un an passé au centre de détention de Brooklyn, il se contente de baisser la tête. Pas un mot, pas un regard vers la salle. Pas même un sourire quand le procureur rappelle qu'il fut le négociant de vin rare le plus en vue du marché. À 37 ans, Rudy Kanyawan est accusé d'avoir monté une incroyable escroquerie dont les propriétaires de Bourgogne et du Bordelais peinent encore à se remettre. Durant près d'une décennie, ce jeune homme aux allures d'étudiant sage a vendu des centaines de bouteilles qui n'avaient d'exceptionnel que le nom et le millésime. Petrus, Romanée Conti, Château-Latour, etc. Les meilleurs œnologues le tenaient pour un expert, les passionnés pour un père. Lors d'une vente organisée à New York en 2006, ces flacons ont rapporté plus de 20 millions de dollars. Un record. Personne ne doutait de sa probité, hormis un vigneron têtu et un groupe d'agents du FBI. Le matin du 8 mars 2012, ces derniers ont débarqué par surprise dans sa villa d'Arcadia, une banlieue résidentielle de Los Angeles. Ils y ont découvert des rangées de bouteilles vides, une imprimante laser, des milliers de fausses étiquettes, de la cire à cacheter et des sacs en plastique remplis de bouchons de liège. Au milieu de ce laboratoire figurait une série de fiches recettes d'un genre particulier. Il y était question, entre autres, de l'art d'obtenir un pommerol des années 40 en mélangeant des vins californiens relativement récents. Cette perquisition était illégale, fulmine aujourd'hui Michael Proctor, le conseil de Rudy Kanyawan. Devant la cour, l'avocat tente de soulever un vice de procédure en ergotant sur la validité du mandat des enquêteurs. Il assure que ceux-ci n'avaient pas le droit de fouiller le domicile et souligne que son client était en pyjama à leur arrivée. Le juge n'est pas convaincu. Le procès aura donc bien lieu à partir du 9 décembre à Manhattan. L'accusé encourt une peine de 40 ans de prison et une amende de 500 000 dollars. Le Gotha du vignoble bourguignon est attendu à la barre. Aubert de Villene, co-gérant de la Romanée Conti, et Christophe Roumier, héritier du domaine Georges Roumier, se sont engagés à témoigner par vidéo au cas où le début des vendanges les empêcherait de venir à New York. Laurent Ponceau, lui, fera le déplacement. Le co-gérant du domaine Ponceau n'imagine pas rater une audience. « J'ai collaboré pendant des années avec le FBI pour coincer Rudy Kanyawan », dit-il en marchant dans ses caves. « Cette histoire est aussi la sienne. Il ne se sépare jamais d'une pochette bleue sur laquelle il a inscrit au stylo bille « Faussaire ». Sans son intervention, l'affaire n'aurait sans doute jamais éclaté. L'apparition de Rudy Kanyawan à la table des collectionneurs américains remonte au début des années 2000. À l'époque, peu d'entre eux s'étonnent de voir débarquer un jeune Asiatique sans pédigré œnologique. Il porte des costumes Hermès sur mesure, une montre Patek Philippe et des bottines en crocodile. So what? Même flanqué d'un caniche blanc baptisé Chloé, il ne détonne guère parmi la nouvelle clientèle d'aficionados. Aux États-Unis, les critiques Robert Parker et Alan Meadows ont transformé les grands Bourgognes en objets de luxe. La quête des bouteilles rares est devenue le dernier jeu à la mode chez les millionnaires du web et de l'immobilier. Ils écument les salles de vente comme des entomologistes en manque, parlent fort et diffusent des photos de leurs trophées sur Internet sitôt les enchères terminées. Dès 2001, Rudy Kanyawan se fait néanmoins remarquer par son comportement d'acheteur compulsif. On le voit sans cesse chez l'un des principaux détaillants de Los Angeles, où il se lie d'amitié avec un vendeur dénommé Paul Wasserman. Un Américain de 40 ans, à la mise avenante, dont le parcours intéressera plus tard le FBI. Il a grandi à Bouillon, un village proche de Dijon. Sa mère, Rebecca, surnommée Becky, fut l'une des premières importatrices de Bourgogne aux États-Unis dans les années 1970. C'est souvent Paul qui conseille Rudy, lequel n'hésite pas à dépenser des centaines de dollars pour des merlots californiens. Lors d'une vente à Paso Robles, une ville située à mi-chemin entre Los Angeles et San Francisco, le gamin produit d'ailleurs un certain effet en gardant son paddle levé tout au long de l'enchère. Certains assurent qu'il débourse près $1 million par mois. Le truc de Rudy, c'était « Je ne baisse pas les bras tant que je n'ai pas la bouteille », raconte aujourd'hui Paul Wasserman, de passage à Paris lors d'un déjeuner au Café de la Paix, dont il vante l'exceptionnelle carte de rosée. Dans le petit monde des grands crus, ce type est vite devenu une légende, se souvient-il. Tout le monde voulait le connaître. Rudy Kurniawan prend pourtant un malin plaisir à brouiller les pistes. Il se présente comme un Indonésien. Pardon, un Chinois d'Indonésie. Ses parents possèdent des champs de pétrole, ou plutôt une licence de bière pour l'Asie du Sud-Est, Heineken, à moins que ce ne soit Guinness. Mais il ne peut en dévoiler davantage parce qu'il doit les protéger. Contre quel danger ? Il ne peut le révéler. Il assure toutefois que sa famille lui donne $1 million par mois, parfois deux. D'ailleurs, il précise que Kurniawan est un nom d'emprunt, mais il reste muet sur sa véritable identité. Il s'est installé en Californie pour suivre des études à l'université, ou entreprendre une carrière de golfeur, ça dépend. Certes, il lui arrive de sortir au bras d'une jolie blonde à l'allure d'hôtesse, à ceci près que c'est rarement la même. Il n'est pas marié, on le croit homosexuel, et il s'en fiche. Lorsqu'une journaliste du Los Angeles Times finit par l'interroger sur sa passion du vin, il dit avoir eu la révélation en goûtant un cabernet de Napa Valley avec son père, quelques années plus tôt. C'était un Opus One 1995 que nous avions découvert dans un restaurant de San Francisco, précise-t-il. Mais il ne se souvient plus du nom de l'établissement. En revanche, il se montre d'une précision irréprochable sur les qualités comparées des grandes appellations. Il multiplie les achats, prend des notes, mémorise tout. Paul Wasserman passe des heures à lui expliquer les subtilités de chaque vin. C'est son professeur particulier en cru millésimé. Il éduque son palais en lui apprenant à oublier la note d'acidité qui gêne d'ordinaire les néophytes. L'élève se révèle très doué. Après le pétillement des vins italiens, il apprivoise le caractère du Pinot Gris allemand, puis le raffinement du Haut Médoc, avant d'arriver au Bourgogne, le Graal des collectionneurs. Ceux-ci soutiennent qu'il faut des décennies pour déceler les particularités de ce terroir, où deux plants de vignes voisins peuvent donner deux jus différents. Ils assurent aussi que personne ne peut tricher avec ces vins, car chacun provient d'un seul cépage, du Chardonnay pour le blanc et du Pinot Noir pour le rouge, et non d'un savant assemblage comme le Bordeaux. Rudy Kurniawan va cependant troubler leur certitude. À peine 3 ans après ses premières leçons, il peut disserter sans fin des anfractuosités de la Côte de Nuit, cette bande de terre longue de 20 km et large de 800 mètres qui s'étend sur 16 communes au sud de Dijon. Un champ de mine, selon l'expression de Robert Parker. Pendant les dégustations en double aveugle, au cours desquelles il faut deviner l'appellation et le millésime, Rudy reconnaît à coup sûr les nectars les plus nobles, comme la Romanée Conti, le Gevrey Chambertin ou le Chambol Musigny. « J'ai vu peu de gens apprendre le Bourgogne aussi rapidement que Rudy », dira le critique Alan Meadows. Paul Wasserman confirme. C'était un garçon extrêmement doué. Il avait une conscience aiguë de l'ensemble du vin et parvenait à ressentir des choses peu accessibles aux autres. En 2004, Kurniawan fait la connaissance d'un jeune commissaire-priseur aux manières moins compassées que ses confrères. John Capone, 32 ans, ancien producteur de hip-hop, connu pour ses goûts de la fête et ses comparaisons douteuses entre le vin et la cocaïne. Il dirige alors la maison d'enchères familiale, Acker Merrill & Condit. Entre les deux hommes, c'est l'entente immédiate. On les croise souvent au cru, un restaurant étoilé de New York doté d'une carte de 150 000 vins où ils trinquent jusqu'au bout de la nuit. John introduit Rudy auprès d'un club de dégustateurs baptisé du nom du film de Sidney Lumet. 12 Angry Men, 12 hommes en colère. Une furieuse bande d'accros au grand cru, dont l'activité principale consiste à siffler des bouteilles hors de prix pour frimer ensuite sur les blogs et les forums spécialisés. Chaque membre a un pseudonyme, Big Boy, The Punisher, etc. Rudy, qui apporte à ses acolytes anonymes les plus beaux flacons, est gratifié de deux surnoms, Dr. Conti et Mr. 47, inspiré de son breuvage préféré. Le Romanée Conti 1947. Un millésime aussi rare que mythique, dont la version Magnum peut coûter jusqu'à 50 000 $. Au contact de ses nouveaux amis, le jeune homme semble oublier sa timidité. En octobre 2004, après 4 jours consacrés à la dégustation de vieux Pétrus, il se lance à son tour sur le site internet de Parker. Le texte est intitulé « Le week-end où j'ai tenté de tuer Capone avec des vins de légende ». Dans son bureau mansardé de Moret-Saint-Denis, à un village de la Côte de Nuit, Laurent Ponceau se souvient de son premier échange de mails au sujet de Rudy Kurniawan. C'était en avril 2008. Il conversait avec un ami avocat, établi à Manhattan, Doug Bardsley. « Quand ta famille a-t-elle produit les premiers clos, Saint-Denis ? Pourquoi tu me poses la question ? Une maison d'enchères propose ici un lot de bouteilles allant de 45 à 71. Impossible, nous avons commencé en 82. » Le jour même, il contactait le responsable de la vente pour le prier de retirer ses bouteilles. Les dates ne collaient pas. C'était forcément une supercherie. Au bout du fil, un certain John Capone lui répondit de ne pas s'inquiéter. Les flacons avaient été certifiés par des experts. Ponceau manqua de s'étrangler. Il prit le premier avion pour New York et pénétra, à peine 24 heures plus tard, dans le restaurant où se tenait la vente aux enchères. Murmure dans l'assemblée. Le commissaire-priseur avait été informé de l'identité de l'invité surprise, reconnaissable à ses longs cheveux et à sa démarche altière. Au moment de passer au Clos Saint-Denis, il annonça le retrait du lot. En accord avec le propriétaire, précisa-t-il sous les lazzis. C'était surréaliste, se souvient Laurent Ponceau. Sur les tables, il y avait une centaine de fausses bouteilles, et pas seulement de mon domaine. Il fallait que je comprenne qui avait pu fabriquer tous ces flacons.